Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa
Bonjour, auditrices et auditeurs de Livres et Amis sur Radio Galère pour cette émission du 10 janvier 2024. Depuis 2023, bien des aventures, quelques problèmes techniques à la radio, quelques problèmes de santé pour moi, les vacances. Bref, nous voici en 2024 après une longue pause depuis notre dernière émission en direct. Alors 2024, bah oui, nous souhaitons cette année moins mauvaise que la précédente sur les plans de la démocratie et de la paix, et nous souhaitons qu'elle soit surtout la meilleure possible sur les plans personnels et les plans relationnels dans notre bonne ville de Marseille. Souhaitons-nous des plaisirs petits et grands dans le quotidien et à la radio, bien sûr. Quant à notre émission, alors, avec notre émission, qu'est-ce qui s'était passé? Nous vous avions laissé, la dernière fois, avec la première partie du roman de Imbolo Mbue, Puissions-nous vivre longtemps? Et plus particulièrement avec un épisode dans lequel le fou du village prenait le pouvoir face à une grande compagnie pétrolière internationale, Paxton. Nous vous disions, cette histoire, c'est celle des damnés de la terre qui se rebellent. C'est celle du peuple qui reprend le pouvoir face au pouvoir colonial impérialiste. Oui, c'est ce que nous vous disions, mais en fait, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. L'histoire ne finit pas très bien. Le fou Konga et ses amis du village de Kosawa, dans le delta du Niger, près du golfe de Guinée, ne remportent pas la victoire dans cet épisode-là, et ils auront bien du mal à la remporter plus tard. Le reste du livre donc de Imbolo Mbue, que nous allons vous raconter maintenant, c'est comment, dans les 20 années qui suivent, les villageois continuent à mener le combat contre Paxton et contre le gouvernement de Son Excellence, qui a donné les terres du village à Paxton pour le plus grand profit de ses finances personnelles et de celles de ses proches. Reprenons donc le récit de Imbolo Mbue. Les personnages, outre le fou Konga, eh bien, il y a les anciens et les sages du village autour de qui on se réunit sous le grand manguier. Il y a aussi les jeunes, enfants et adolescents, qui souvent prennent en charge le récit et lui donnent cette tonalité à la fois spontanée et un peu naïve que nous avions remarquée la dernière fois. Et parmi eux, il y a Tula, brillant élève qui partira poursuivre sa formation aux États-Unis, et son frère Jouba, qui deviendra fonctionnaire gouvernemental. Tula et Jouba sont les enfants d'un des sages, précisément, qui tentent de négocier avec Paxton et avec le gouvernement central. Ce petit groupe de sages, en fait, disparaît lors d'un de leurs déplacements dans la capitale, sans doute éliminés pour leur trop grande curiosité. De même, d'ailleurs, que 4 opposants au développement de Paxton qui avaient accompagné le fou, et qui, eux, officiellement, ont été pendus dans les geôles gouvernementales lorsque leurs questions sont devenues trop gênantes. Mais d'autres personnages apparaissent temporairement sur le devant de la scène. Par exemple, Sahel, la maman de Tula, ou Yaya, sa grand-mère. Leurs récits sont l'occasion d'évocations très vivantes de la vie et des croyances traditionnelles du village. Nous allons donc vous lire un certain nombre d'extraits de ces prises de parole des personnages principaux concernant aussi bien la lutte des villageois contre Paxton que leur quotidien à Kosawa, ce petit village donc du delta du Niger. Et d'abord, tout là, avec ses souvenirs d'enfance et le début des ravages de Paxton dans ce fameux village de Kosawa.
Dans le plus ancien de mes souvenirs, papa et maman me mettent en garde contre le fleuve dont je ne dois approcher sous aucun prétexte. Sans leur avertissement, comment aurais-je su que d'ordinaire, les fleuves ne charrient pas de pétrole ni de déchets toxiques ? Sans les histoires de leur enfance, que nos parents nous ont racontées, à une époque où ils vivaient dans un village sain, passaient leur journée à se baigner dans des cours d'eau non pollués, comment mes amis et moi aurions-nous su que l'étrange fumée qui enveloppait Kosawa par intermittence et nous faisait larmoyer, renifler, n'était pas chose normale dans la vie des autres enfants de notre âge. L'année de ma naissance et celle de mes amis, alors que certains d'entre nous étaient leur mère, un puits de pétrole avait explosé au jardin. Nos parents et grands-parents nous ont raconté qu'avec le souffle de l'explosion, du brut et de la fumée avaient été projetés dans le ciel, par-delà la cime des arbres. L'air avait été rempli de suie, un spectacle que tous avaient interprété comme un présage, n'en ayant jamais vu de semblable. Cependant, l'année de nos 6 ans, nos parents avaient saisi l'ampleur de la malédiction que représentait le fait de vivre au-dessus d'un gisement de pétrole. Ils s'étaient rendus compte que ce jour-là, ils n'avaient pas vu de présage, mais la tête d'un puits de pétrole endommagé qui aurait dû être remplacé depuis longtemps. Mais pourquoi Paxton la remplacerait-elle dans la mesure où nous étions pratiquement les seuls à payer le prix de sa négligence ? Bien que Paxton se soit implanté à l'époque où papa était petit garçon, la compagnie n'est devenue responsable de nombreux décès que depuis 3 ans, au moment où elle a décidé de forer un nouveau puits au jardin. Avec l'accroissement des déchets rejetés dans les eaux du fleuve, les rares formes de vie restantes ont disparu. En un an, les pêcheurs ont débité leur canoë et fait un nouvel usage du bois. Les enfants ont commencé à oublier le goût du poisson. L'odeur de Kosawa est devenue celle du brut. Le bruit en provenance du champ pétrolifère a considérablement augmenté. Nous l'entendons jour et nuit dans nos chambres, notre salle de classe, au cœur de la forêt. L'air est devenu lourd. À la fin de cette première saison sèche, un pipeline a éclaté et les terres agricoles de la mère d'une de mes amies ont été inondées de pétrole. Cette année-là, sa famille n'a pratiquement pas eu de récolte. Certains jours, j'ai dû partager mon goûter avec elle à la récréation. Plusieurs semaines après, une autre fuite a pris feu et l'incendie a ravagé les champs de 6 familles, ce qui a obligé les mères à se mettre en quête de nouvelles terres au fin fond de la forêt, un trajet qui laissait la plupart d'entre elles trop épuisées pour travailler. Comme si ça n'était pas suffisant, le problème des torchères a empiré. La fumée est devenue plus noire. Pour une raison incompréhensible, la fumée soufflait toujours dans notre direction, jamais dans celle des jardins ni de la belle maison du contremaître américain en haut de la colline. Chaque fois qu'une fuite de pétrole survenait et chaque fois que les torchères brûlaient avec une telle violence que notre peau s'en trouvait toute desséchée et que nous devions hurler pour nous faire entendre et tenter de couvrir les hurlements des flammes, Voja Beki dépêchait un émissaire pour aller parler à un contremaître qui à son tour envoyait des ouvriers inspecter les dégâts, rafistoler tant bien que mal les vieux pipelines rouillés et nous assurer que les fuites étaient inoffensives, que l'air était pur et que Paxton se conformait à la loi. Peu de temps après mes sept ans, 2 enfants sont morts en 1 mois. Tous 2 avaient de fortes fièvres, mais présentaient des symptômes différents. Papa et les autres hommes de Kosawa ont fabriqué des cercueils et creusé des tombes. Maman et les autres femmes ont cuisiné pour les familles endeuillées et pleuré de concert avec les mères dévastées. Quant à nous, les enfants, nous avons fait de notre mieux pour que les frères et sœurs des défunts se sentent moins seuls. Nous nous asseyions en silence à côté d'eux lorsqu'ils avaient besoin de pleurer et nous les laissions choisir le jeu auquel nous jouerions ensemble lorsqu'ils avaient besoin d'échapper à leur chagrin. Personne ne s'est appesanti sur le fait que 2 enfants soient morts en 1 mois. Dans un village où vivaient des dizaines d'enfants, il n'était pas rare que ça arrive. Il a fallu attendre que Wambi, mon camarade de classe, commence à tousser pendant que le reste d'entre nous riait, puis qu'il vomisse du sang. Il a fallu attendre d'avoir enterré Wambi et que d'autres toux semblables à la sienne résonnent dans la cour de l'école et rebondissent de case en case, que des enfants urinent du sang, que d'autres atteignent des pics de fièvre qu'aucun bain froid ne pouvait calmer, que plusieurs meurent. Il a fallu attendre quelques mois avant que mon frère Jouba meure et ressuscite dans les bras de papa, pour que les parents commencent à se demander s'il était possible que la mort de leurs enfants ait la même cause. Au début, personne n'a incriminé le champ pétrolifère. Il était là depuis des dizaines d'années, et malgré la haine que la compagnie nous inspirait, nous n'avions jamais posé les yeux sur un de nos défunts et fait le rapprochement entre sa mort et Paxton. Depuis longtemps, nous nous étions convaincus que nos corps avaient évolué de façon à supporter les poisons respirés quotidiennement et que grâce à la miséricorde de l'esprit, les poisons eux-mêmes n'étaient pas assez puissants pour provoquer des maladies qui ne puissent être guéries par des plantes et des potions. De nombreux parents étaient persuadés qu'il s'agissait d'une malédiction, d'un sort jeté sur leurs enfants par un parent jaloux d'un autre village. Un parent dont la colère était dirigée vers une famille en particulier, mais qui ne s'attaquait aux autres enfants de Kosawa pour donner l'impression qu'elle frappait au hasard, pour empêcher de remonter jusqu'à sa source. À moins que Kosawa n'ait fâché l'esprit, à moins que nos parents n'aient besoin d'expier une faute ou une autre pour que leurs enfants soient épargnés, Jacques Annie, notre barabout, après s'être adressé aux ancêtres, avait assuré à nos parents qu'ils n'avaient nul besoin d'expier. Les souffrances des enfants étaient issues de ce monde et non du monde spirituel. Elles étaient engendrées par un poison qui courait dans notre village et pénétrait dans leur ventre. Mais les enfants morts avaient mangé des plats différents. Certains aliments avaient été achetés au grand marché de Kolunja, maintenant que seule une poignée de familles pouvait compter sur leur terre pour subvenir à leurs besoins. Les enfants morts avaient dormi dans des cases différentes. Qu'avaient-ils tous touché en commun à part le sol sur lequel ils marchaient, les fruits qu'ils cueillaient aux mêmes arbres ou l'eau du puits qu'ils buvaient? Bissot, le meilleur ami de papa, a été le premier à émettre devant papa et notre cousin Sonny l'hypothèse que l'eau était la coupable. En un clin d'œil, la théorie s'est répandue à travers tout le village. Les parents se demandaient ce que contenait l'eau bue par leurs enfants, comment un poison avait-il pu pénétrer dans un puits couvert. Vojabeki a convoqué une réunion à laquelle il a convié les responsables en chef des jardins. Nos parents ont supplié les responsables de prélever un peu d'eau du puits, de la faire examiner et de nous dire si elle était responsable de nos morts. Avares de mots, les responsables ont emporté l'échantillon d'eau. Lorsqu'ils sont revenus des semaines plus tard, l'eau avait été envoyée à Bézam pour être analysée. Ils ont affirmé à nos parents que l'eau était propre à la consommation, mais que, par mesure de précaution, il était préférable de la faire bouillir une demi-heure avant de la proposer aux enfants. Ces précautions n'ont pas suffi.
Oui, alors on a ici la mention du chef du village, Bojabeki, qu'on avait déjà rencontré dans notre première lecture. Et les hésitations de Vojabeki, effectivement, c'est bien ce qui va poser problème très vite, puisqu'il est bien le chef du village, mais il est aussi celui qui, à un moment donné, va se faire, on pourrait dire, acheter par la compagnie Paxton. Paxton dit de faire bouillir l'eau. Et en effet, Paxton, pour ses employés directement, américanisés, ou pour ses employés dans la capitale, fournit de l'eau en bouteille. Donc, c'est bien l'eau du village qu'il faut incriminer pour la maladie des enfants. Et on se demande en effet si la faire bouillir une demi-heure, ça va suffire à préserver les enfants de cette maladie qui vient en fait du pétrole, qui vient des rejets pétroliers surtout, et de tout un tas de déchets chimiques liés à l'exploitation pétrolière en tant que telle. Donc les hésitations du chef du village, c'est ce dont on nous fait part ici. D'une voix où sentant encore la fraîcheur du matin, Wojabeki reconnaît que toutes les requêtes qu'il a adressées au gouvernement pour le prier de faire usage de son pouvoir afin de stopper Paxton et de punir la compagnie sont restées lettres mortes et que la situation ne s'améliore pas. Il ne sait plus quoi faire. Comment ces gens peuvent-ils être insensibles au sort des enfants ? Ne voient-ils pas que ce qu'ils font subir aux nôtres pourrait un jour être infligé aux leurs ? Il retourne souvent ces questions, ajoute-t-il, mais il n'a pas trouvé de réponse. Il y a quelques jours, il s'est rendu à la sous-préfecture, à Lukunja, et on lui a dit que Paxton envisageait de forer un nouveau puits, un puits supplémentaire, encore un. Ces puits qui soufflent leur poison sur nous tous les jours ne sont-ils pas déjà assez nombreux ? Après le dernier enterrement, il n'a pas pu trouver le sommeil. Il est retourné à Lukunja, supplier le sous-préfet d'intervenir à nouveau auprès de Paxton en notre nom, de trouver le moyen, si c'était possible, de remplacer les pipelines usés, car bientôt les fuites se répandraient jusqu'à nos cases et nous tueraient jusque dans notre sommeil. Mais l'a-t-on seulement écouté ? Le sous-préfet lui a assuré que les pipelines étaient en bon état, que des fuites de temps à autre, finalement, ça n'avait aucune incidence sur la vie des gens et que, de toute façon, tous les pipelines fuyaient dans le monde entier. Alors, qu'était-il censé répondre à pareille affirmation ? Aurait-il dû continuer de discuter alors que, manifestement, on le prenait pour un fou ? Qu'aurait-il dû faire, oui ? Ne rien dire ? Regarder son peuple mourir ? Il ne savait vraiment pas quoi faire. Donc la décision va venir à d'autres. Au village, Wojabeki n'est plus respecté. On pense qu'en effet, il a été acheté par Paxton ou par le gouvernement. Et finalement, ce sont d'autres hommes, d'autres sages, qui vont prendre la décision d'aller jusqu'au gouvernement pour essayer d'obtenir une réponse. Mais qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu crois ? Qu'en allant à Bézom, les hommes du gouvernement vont te serrer la main et te dire « Bienvenue, en quoi puis-je vous être utile ?»« Mais je ne vais pas là-bas pour serrer des mains, je vais pour revendiquer, je vais pour nous représenter. » Tu perds ton temps et tu mets ta famille dans tous tes états. Quel est le véritable but ? Le gouvernement est-il un rocher, une chose sans intelligence ni cœur ? S'est mis à hurler notre père Malobo. Le gouvernement n'est-il pas composé comme nous d'humains, des gens qui ont des enfants, des pères, des mères, qui savent ce que c'est que d'avoir un enfant malade ? Oui, je veux aller au gouvernement et tout là, écoute-moi, écoute ce que j'ai à te dire pendant que je vais partir. C'est donc Malobo, le père de Tula, qui va, avec trois autres hommes, partir vers le gouvernement central pour représenter le village. « Tula, dit-il après une longue minute de silence, « papa, pendant mon absence, fais en sorte que... » Il pousse un soupir. « Il me demande de m'occuper de Jouba, mon petit frère, de bien écouter Yaya, ma grand-mère, de bien écouter maman et de même écouter Bongo, mon oncle. « Oui, papa. Il me dit qu'il compte sur moi pour être forte. » Forte surtout pour aider maman, pour veiller à ce qu'elle mange, à ce qu'elle dorme, à ce qu'elle dorme bien. Et puis ne pas oublier l'enfant à naître. Il faut qu'elle aille bien pour que l'enfant à naître aille bien. Je ne veux pas revenir et découvrir que Yaya et elle n'ont pas mangé parce qu'elles s'inquiétaient de mon retour. Je veux qu'elles continuent à manger bien, je veux que tu les aides, je veux que tu les soutiennes. Et puis Bongo, lui aussi, même si c'est un homme responsable, je ne peux pas lui confier cette mission. C'est toi qui dois le faire. Je ferai ce que tu dis, papa. Bon, alors maintenant, prépare-toi, c'est l'heure d'aller en classe. Le dixième jour, donc son père est parti, le dixième jour, je me réveille tôt, je balaie les feuilles de goyavier dans la cour, puis je les brûle à l'arrière de la case, puis je vais à l'école, puis je rentre de l'école à toute vitesse parce que j'attends toujours papa. Et je n'ose plus quitter l'auvent de la case. J'attends papa. Je me force à respirer. Nous sommes tous assis sous l'auvent. Personne ne se parle. Nos émotions sont altérées, nos émotions sont indicibles, nos yeux sont secs mais aux aguets. Nous attendons tous les jours jusqu'à ce qu'il fasse trop noir pour distinguer la souffrance sur le visage des autres. Et papa ne revient pas. Finalement, le 30e jour, le fils de Wojabecki est venu nous voir. Il est venu nous voir pour nous dire qu'il ne savait pas où était papa, que lui et les quatre autres, ils avaient été reçus à Bézam, mais qu'on ne savait pas ce qu'ils étaient devenus après avoir été au bureau central. « Je vous jure, sur la tête de nos ancêtres jusqu'au dernier, » dit Gono en se penchant pour passer un doigt sur le sol avant de lécher la poussière qui s'y est déposée, « je vous jure sur tout ce que j'ai de plus précieux, que les gens du gouvernement m'ont promis que vos frères avaient quitté leur bureau en vie. » Ben oui, ils ont quitté les bureaux en vie, mais ensuite, que sont-ils devenus dans cette grande capitale de Bézam ? Et que leur a-t-on infligé ? J'ignore les moyens dont dispose une fille pour faire payer les crimes de certains hommes, mais il me reste toute la vie pour le découvrir. » C'est donc Toula qui va, avec d'autres jeunes, prendre la relève. D'abord, son oncle Bongo, qui partira de nouveau, lui aussi, à la capitale, pour faire son enquête. Mais il s'agit de prendre d'autres contacts. Et puis elle, ensuite, oui, pour chercher ces informations, pour savoir ce que sont devenus leurs délégués lorsqu'ils sont allés à Bézam. En fait, ces hommes, ces premiers disparus de Bézam, on ne les retrouvera jamais, on ne saura jamais ce qu'ils sont devenus. Et dans un deuxième temps, donc, quand Bongo part pour Bézam, lui, il va prendre d'autres contacts. Il a noué des contacts en particulier avec un journaliste américain dont on lui a donné les coordonnées. Ce journaliste américain habite dans la capitale et il écrit pour des journaux américains, bien sûr, et il peut faire partager à ses lecteurs d'outre-Atlantique la détresse des habitants de Kosawa. Donc c'est la raison pour laquelle Bongo va partir, lui aussi, à Bézam, mais ce sera pour rencontrer Austin. Et comme c'est une autre histoire, on vous la racontera après la pause musicale. C'était donc une musique traditionnelle bamileke, pas très loin de la région imaginaire, entre guillemets, de Kosawa, qui n'est en fait pas une région imaginaire, mais qui a reçu un nom imaginaire de la part de l'auteur Imbolo Mbue, pour mieux parler, au contraire, de cette région du delta du Niger, qui est confrontée sans arrêt au problème de la production pétrolière et au problème que cela pose à sa population. Donc nous avions vu avant la pause que des habitants du village de Kosawa allaient rencontrer à Bezam, à la capitale, un journaliste américain, puisqu'ils espèrent ainsi lui faire partager la détresse des habitants, détresse à laquelle le gouvernement local et la grande compagnie pétrolière sont évidemment totalement insensibles.
Notre village est dans une situation épouvantable, Austin. C'est pour cette raison que nous sommes venus vous trouver, dis-je. Votre oncle pense que vous pourriez nous aider. Alors il a écrit cette lettre. Il veut que nous vous demandions de l'aide. Austin déplie la lettre de son oncle. Je l'ai déjà lue pour m'assurer qu'elle ne recelait aucune trahison. Austin ne manifeste ni choc ni enthousiasme en la lisant. Après avoir lu la lettre, Austin s'excuse et remonte l'escalier de bois 4x4, puis revient armé d'un bloc et d'un stylo. Il veut en savoir davantage, dit-il. Il veut connaître chaque détail, du jour où Paxton a débarqué à Kosawa au jour où le dernier enfant est mort. Je parle et il écrit. Les questions s'enchaînent. Combien d'enfants sont-ils morts? J'essaie de me rappeler. Trop, lui dis-je.
Austin déplie la lettre de son oncle. On dit qu'il y a trop d'enfants qui sont morts, en effet, c'est vrai. Et à la moitié du flot des questions, parce que celui qui répond ne peut pas pour le moment compter dans sa tête le nombre des enfants, à la moitié des questions, histoire comme nous lorsque nous sommes au micro, de se réhydrater un peu, il sort sa bouteille d'eau tiède. Hein.
À la moitié du flot de questions, je sors ma bouteille d'eau tiède de mon sac et j'en bois une gorgée. C'est d'une voix ferme que je dois raconter les symptômes des enfants. Les dernières fuites de pétrole qui ont inondé les champs de 3 familles. Je décris à Austin l'aspect du fleuve aujourd'hui, sa couleur verte, ses eaux qui s'écoulent paresseusement sous des couches de déchets toxiques. Je lui dis que, selon toute vraisemblance, la récolte sera maigre et que, en raison des mauvaises récoltes, on dépense la plus grande partie du peu d'argent qui nous reste après avoir payé les impôts pour acheter de la nourriture à l'Okunja. Lorsque je finis de parler et Austin de noter, il me dit qu'il compte écrire son article le soir même et l'envoyer en Amérique à la première heure demain matin. Ses amis au siège du journal feront quelques recherches pour s'assurer qu'en l'absence de preuves, notre histoire est susceptible d'être étayée par des faits connus. Nous aurons des noms. Kosawa existera. On entendra parler de nos enfants défunts. Combien de temps avant que le salut parvienne à ceux qui continuent de s'accrocher? Il veut écrire son article le plus vite possible, l'envoyer à ses collègues et rester à leur disposition au cas où il souhaiterait le publier immédiatement et aurait besoin qu'il le retravaille. Après quoi, il aimerait nous accompagner à Kosawa pour se faire une idée par lui-même. Il apportera son appareil et prendra un maximum de photos parce qu'avec des photos, il pourra écrire un autre article plus fouillé.
Donc Austin devient un nouveau personnage, un personnage important du roman à partir de ce moment-là, puisque finalement, il est celui qui va décider du renvoi vers les États-Unis des responsabilités de Paxton et du jugement des responsabilités de Paxton. En tant que journaliste, il va pouvoir essayer de mobiliser autour de son journal l'opinion publique afin que des défenseurs de Kosawa se mettent en route ou du moins se mettent en mouvement. Et surtout, ça va être la fin de la première partie du livre où tout se passait en Afrique et le début de la seconde partie où justement, à cause de la recherche des responsabilités de Paxton aux États-Unis, une nouvelle, disons, un nouvel axe du récit va se mettre en place autour précisément de la recherche des responsabilités de Paxton, et puis aussi autour d'un mouvement qui s'appelle le Mouvement pour la Restauration et qui est une association qui se met en place pour défendre les habitants de Kosawa. Donc désormais, le combat pour la défense du village ne se passe plus sur un plan national. C'est vrai que sur le plan national, malheureusement, ça ne s'était pas bien passé, mais sur un plan international. Bien des événements vont prendre place aux États-Unis. Une association, donc le Mouvement pour la Restauration du village, va se créer. Et avec cette association, même si les actes ne sont pas toujours évidents, même si les retombées matérielles ne sont pas toujours très visibles, il va tout de même y avoir des financements qui vont arriver au village. Des financements d'abord pour restaurer une partie des terrains agricoles et puis surtout des financements pour l'éducation des jeunes. Donc, l'éducation des jeunes qui vont d'abord aller dans les écoles secondaires locales, et puis comme Tula, qui ensuite, après le secondaire, va quitter son pays pour aller poursuivre des études universitaires en Amérique. Donc, ce départ de Tula pour l'Amérique, cette innovation, disons, de la fréquentation d'écoles secondaires puis universitaires de la part des enfants de Tula, c'est ce que nous raconte maintenant la deuxième partie du roman. La première fois que le mouvement pour la restauration est venu constater l'état de notre village, la délégation était composée de 5 personnes, le gentil et le charmant. Un homme qui aurait pu être de notre région, mais qui était originaire d'un pays voisin. Et puis, un homme et une femme d'Amérique, tous deux à peu près de mon âge, portant un short marron et un chapeau avec une ficelle nouée sous le menton. Et puis, donc, un observateur, le visage d'une teinte avoisinant celle d'une pomme mûre. Ils ont fait le tour du village, ils ont vu les pipelines et les endroits souillés par les fuites de brut depuis des années. Nous les avons emmenés dans la forêt où ils ont vu les cultures devenues improductives en raison des incendies. Ils ont examiné les produits flétris de notre sol. Ils ont pris des photos des déchets flottant sur les fleuves. Enfin, le fleuve et ses affluents. Ils nous ont montré des feuilles piquetées de trous et nous ont expliqué que c'était le résultat des pluies acides. Que notre pluie n'était pas non plus de la pluie pure depuis bien longtemps. Nous les avons conduits au cimetière devant les tombes des enfants. Nous avons vu leurs lèvres remuer en comptant les petits monticules. Et ils ont tourné les yeux vers ces exploitations des jardins et vers les torchères. À la réunion qui s'est tenue sur la place, la femme et l'homme d'Amérique ont secoué la tête à maintes reprises en écoutant le gentil et le charmant, même s'ils ne comprenaient pas notre langue. Le gentil et le charmant, oui, ils parlaient notre langue. Ils nous ont informé que la femme et l'homme d'Amérique avaient voulu se rendre compte par eux-mêmes de la situation. Ils étaient membres de l'association qui nous soutenait là-bas. Et ils étaient au courant d'histoires similaires à la nôtre parce que leur activité, précisément, était de se battre au nom de gens comme nous. Mais toutefois, ils n'avaient pas encore rencontré de cas comme le nôtre, avec un pareil assujettissement lié sans doute au pouvoir local de son excellence. La femme et l'homme d'Amérique ont offert des livres et des bonbons au goût de miel à nos enfants. Ils avaient envie de les serrer contre eux et en fait, ils avaient les yeux pleins de larmes, mais voilà, ensuite ils sont repartis en manifestant leur patience, en nous demandant aussi de manifester notre patience, puisque maintenant, il faudrait attendre les résultats. Un mois plus tard, le gentil et le charmant ont commencé à venir nous voir seuls. Eux, ils vivaient à Bézam, la capitale. Ils se rendaient dans bien des villages environnants. Et ils trouvaient quand même du temps pour venir nous voir. Alors, ils venaient nous voir, ils restaient avec nous. ils discutaient et ils venaient nous voir surtout, par exemple, quand il y avait un nouveau décès, parce que bien sûr cela nous aidait et cela nous aidait même à dormir, par exemple. Un jour, ils ont apporté de l'argent de Paxton. Ils nous ont dit que c'était quelque chose qu'on devait nous remettre, que nous n'étions pas obligés de l'accepter, mais enfin, ils nous conseillaient quand même de l'accepter en attendant le reste des réparations que Paxton serait sans doute condamné à nous verser. Alors, nous avons pris cet argent, oui, et nous avions beau haïr Paxton, finalement, cet argent a bien contribué à nous aider pendant la petite période où, finalement, il a été utilisé. En fait, il s'agissait de notre argent, le fruit de notre pétrole. Les hommes du mouvement pour la restauration avaient précisé que cet argent ne concernait que le moment présent et qu'ils chercheraient à en obtenir d'autres de Paxton par un procès qui devait avoir lieu aux États-Unis. Ils feraient payer Paxton pour le pétrole sur le fleuve, pour la poussière dans l'air, pour le poison dans l'eau et pour les cultures qui ne produisaient presque plus rien, qui ne produirait même peut-être presque plus rien jusqu'à une nouvelle génération. Alors oui, nous pourrions attendre un peu plus d'argent, mais nos cœurs meurtris, eux, ne cicatriseraient-ils jamais ? Ça, c'est la première démarche, c'est donc la venue de l'argent, entre guillemets, enfin d'une compensation, à laquelle on promet une suite et cette suite, il semblerait que le village l'attend très 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 longtemps. La deuxième partie, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, le fait de financer l'éducation. Alors l'éducation secondaire et puis surtout, on va le voir ici, l'éducation supérieure de Tula par exemple, qui part en Amérique.
La semaine...
C'est la maman de Tula, c'est Sahel, donc la maman de Tula qui parle.
La semaine précédant son départ pour l'Amérique, elle m'a dit « Maman, tu sais que je vais revenir, tu le sais ?» Et voyant que je ne réagissais pas, elle a ajouté « Je ne t'abandonnerai jamais. » Et voyant que je ne réagissais toujours pas, elle a fondu en larmes, des larmes que je ne lui avais pas vues depuis qu'elle était bébé. Elle est redevenue mon bébé, une dernière fois. Ils m'ont décrit sa nouvelle maison. Ils m'ont dit qu'elle habiterait à l'école. Quand j'ai demandé comment c'était possible, ils m'ont expliqué que l'enceinte de l'école faisait plusieurs fois la taille de Kosava et que dans cette école, il y avait des maisons avec des livres et des maisons avec des lits et des maisons avec de la nourriture et que, une fois qu'elle y serait, elle n'aurait qu'à marcher d'une maison à l'autre. Elle n'aurait plus à prendre le car pour aller à l'école tous les matins comme elle l'avait fait ces 5 dernières années. Ils m'ont promis que cette école valait la peine qu'elle traverse l'océan, que cette école faisait partie de la poignée d'écoles dans le monde où l'on trouvait toutes les connaissances à la portée des hommes et que, à son retour, elle aurait une meilleure compréhension de tout ce qui méritait d'être compris, plus de compréhension qu'elle n'en aurait besoin jusqu'à la fin de sa vie, et qui signifiait que nous aussi nous aurions une meilleure compréhension. Qu'y avait-il de plus important ? Notre peuple se mourait d'un manque de connaissances, disait-il. Et si un de nos enfants partait en Amérique et en revenait armé de connaissances, alors un jour, plus aucun gouvernement ni aucune entreprise ne pourrait nous infliger ce qui nous avait été infligé. Je leur ai demandé qui s'occuperait de ma fille en Amérique. Qui cuisinerait ses plats préférés ? Qui laverait son linge ? Qui s'assurerait qu'elle se réveillait à l'heure pour l'école ? Ils m'ont dit qu'il y aurait des gens pour lui faire la cuisine et que les repas, loin d'être aussi délicieux que les nôtres, seraient mangeables. La preuve en était que la plupart des adolescents qui fréquentaient cette école grossissaient la première année. L'école était équipée de machines qui lavaient le linge et de machines pour la réveiller le matin. Et si d'aventure elle tombait malade, tout type de médicaments pour soigner tout type de maladie était disponible en Amérique. Je voulais savoir à quoi ressemblait la ville dans laquelle elle allait vivre. Ils m'ont dit que c'était un endroit merveilleux, une ville plus extraordinaire que toutes celles qui avaient existé et existeraient à l'avenir. Ils m'ont dit que cette description ne leur appartenait pas. Elle était celle d'hommes et de femmes aux vastes connaissances, dont beaucoup avaient voyagé de par le monde et visité d'autres villes. Ils ne faisaient que répéter ce qui était connu. Après quoi, le gentil et le charmant sont revenus plusieurs fois pour nous aider à préparer son voyage. Nous avons décidé de ne rien dire au village, pas même à Yaya ni à Juba, jusqu'à ce qu'elle soit allée à Bézam, en compagnie du gentil, au prétexte de représenter Kosawa à un concours de lecture, pour obtenir les papiers nécessaires à son voyage et jusqu'à ce que nous ayons la date de son départ. Elle ne dirait rien à personne, parce que le poids du voyage était lourd, et plus elle en avait sur le cœur, moins elle parlait.
Tula s'en va, Tula est partie, Tula va donc poursuivre ses études aux États-Unis, et c'est tout le récit de cette, à la fois de ses études et de la bataille du mouvement pour la restauration qui va être exposé dans les chapitres suivants. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant que Tula poursuit ses études aux États-Unis, le village continue à vivre, on pourrait dire, au ralenti, dans la mesure où plus rien ne se passe. On a un peu l'impression que le fait que les villageois aient reçu un peu d'argent et que la meilleure d'entre eux soit partie étudier aux États-Unis, ça doit être une compensation suffisante. En tout cas, ça semble être un petit peu ce qu'ont pensé les membres du mouvement pour la restauration. Alors, comme on disait tout à l'heure dans le texte, la belle ville, en fait c'est New York, mais les habitants de Kosawa continuent d'appeler cette ville la belle ville. Donc écoutons ce qui se passe. Des milliers de personnes en Amérique ont lu notre histoire. Des centaines ont appelé le bureau du mouvement pour la restauration à la belle ville pour proposer leur aide. Nous l'avons appris grâce au rapport que la femme et l'homme d'Amérique ont apporté à la première réunion, puis à d'autres réunions parce qu'ils les avaient données aux charmants et aux gentils. Des mères appelaient en larmes après avoir lu ce qui nous était arrivé et ce qui était arrivé à nos enfants. Des jeunes gens défilaient autour du siège de Paxton en criant « Honte à Paxton, honte à Paxton, Paxton assassin ». Nous n'étions plus seuls. Beaucoup ont cessé d'acheter du pétrole Paxton. Au mouvement pour la restauration, l'argent est entré à flot pour notre salut. Des gens qui avaient vu les photos d'Austin en ont parlé autour d'eux, à d'autres gens, et ces autres gens ont relayé l'histoire à leurs amis et à leurs voisins. Le gentil nous a dit que les Américains étaient comme nous, ils transmettaient des histoires de bouche en bouche et la nôtre se répandait plus vite qu'un feu provoqué par une fuite de pétrole en pleine saison sèche. Alors oui, c'est ça, c'est exactement ça. L'histoire se répand, mais finalement, même si l'histoire se répand, ça ne suffit pas. Et les enfants, en particulier de la génération de Tula, ne sont pas du tout satisfaits de ce qui se passe. Les enfants ont grandi, ils sont maintenant de jeunes adultes, ils sont arrivés à l'âge de créer des familles, et finalement, pour eux, rien n'a changé. Donc, le chef du village a changé, puisque Wojabeti, dont on avait pensé qu'il était un petit peu du côté du pouvoir, est parti, et il s'est écoulé 17 ans depuis que le début des hostilités, si on peut dire, avait fait que Konga, vous vous souvenez, notre fou, avait pris la parole pour réagir contre les exactions de Paxton. Depuis nos 17 ans, nous en parlions sans relâche du jour où nous rendrions la monnaie de sa pièce à Paxton. Soulevant des cases sur la place du village, en chemin vers la forêt, nous discutions des sévices que nous infligerions aux gens de Paxton, que nous infligerions à son excellence. Nous nous imaginions mettre le feu au bâtiment des jardins, tuer les ouvriers, se procurer des armes et aller à Bézam abattre les hauts fonctionnaires. Remuer ce genre de pensée nous soulageait, la simple idée de les amener à avoir peur de nous. Nous tenions ces rêves secrets car, Même si notre chagrin n'était pas supérieur à celui de n'importe qui d'autre, nous savions que, contrairement à nous, nos familles et nos amis s'accrochaient à l'idée qu'il ne servait à rien de s'en prendre à nos ennemis. Le village était ressorti brisé des premiers épisodes de révolte. Et finalement, le mouvement pour la restauration avait distribué un peu d'argent. Ce peu d'argent était très insuffisant, mais il avait noyé la rébellion des villageois. Alors, à en croire les villageois qui continuaient à venir aux réunions, eh bien, finalement, il n'y avait plus rien à attendre des gentils Américains. Et nous avions notre haine pure, notre haine contre Paxton, et notre haine brûlait avec la même intensité que leur torchère. Alors nous avons continué à discuter sous l'auvent de nos cases pendant que Tula était aux États-Unis. Elle était partie en Amérique, bien sûr, mais elle nous écrivait, nous lui écrivions, nous correspondions. Nous lui disions notre révolte. Elle essayait de calmer notre révolte. Que se passait-il finalement? Ah oui, sa première lettre est arrivée. Je vais vous la lire.
J'ai du mal à me figurer que New York et Kosawa existent sur la même planète et que je me sois trouvée dans l'une comme dans l'autre et que j'ai vécu des vies si différentes. Dans mon lit, les yeux fermés, la distance est abolie. Mais quand je me lève, je me rappelle que je ne suis pas venue ici pour regretter ce que j'ai laissé en partant. Je suis venue ici pour trouver ce que je cherche et je l'obtiens tous les jours, en cours et dans les livres que je lis, et en rencontrant d'autres étudiants convaincus de devoir remédier à l'inacceptable. C'est ainsi que je me suis liée d'amitié avec quelques-uns. Ensemble, on discute de ce qu'il faudrait faire pour nos peuples. Ici aussi coule un fleuve qui longe la partie est de la ville jusqu'à son extrémité sud. Sur les rives du fleuve, des hommes sans maison, des femmes en recherche de mari et des gens comme moi regardent l'eau couler, assis sur des bancs abrités par des arbres. Quand me manque l'inquiétude que seul notre lieu de naissance nous procure, je vais au bord de ce fleuve. C'est là que je vous écris. Maintenant, il faut que je retourne à ma chambre. Ici, les devoirs sont beaucoup plus difficiles qu'à l'Okunja, mais c'est bon pour moi. Dans un cours que je suis, on étudie un des livres de mon oncle que j'adore, celui qui s'appelle « Les damnés de la terre ». Je relis mon vieil exemplaire et comprends enfin ce texte grâce aux leçons et aux discussions en classe. Je suis émerveillée parce que l'auteur conseille au peuple dans notre situation. Mes amis et moi passons des heures à disséquer ses idées. J'espère que tous les enfants de Kosawa liront ce livre un jour. Il propose une toute nouvelle façon de réfléchir. Y a-t-il eu des naissances depuis mon départ? Des mariages? Ici, il m'a été fait bon accueil, et même si je n'y restais pas un jour de plus que nécessaire, je suis contente d'être là. J'acquiers de nouvelles connaissances tous les jours, et je suis convaincue que ces connaissances seront bénéfiques à notre peuple. Je serai toujours l'une d'entre nous, tout là. Quel bonheur sa lettre nous a apporté. Même sur une feuille de papier, il était manifeste que l'Amérique l'a transformée. Son vocabulaire s'était enrichi et cela nous permettait d'accéder à ce qui se passait derrière ses yeux. Le fait d'être entouré d'amis plus proches d'elle que nous ne l'étions à certains égards avait sans doute libéré sa parole sur des sujets qu'elle ne pouvait aborder à Kosawa. Il se peut aussi que vivre seule ait provoqué en elle l'envie de parler davantage. Quoi qu'il en soit, elle ne pouvait plus rester l'impénétrable Tula que nous connaissions si elle espérait échapper à la vie d'une étrangère. Qu'importait le prix, il était temps qu'elle s'ouvre au monde si elle voulait rentrer à Kosawa avec ce qu'elle cherchait.
Finalement, ce qui est étonnant, c'est que, en effet, Tula lit Les damnés de la terre de Fanon, mais ce sont ses camarades de Kosawa qui vont essayer de réaliser les projets de Fanon. Parce que Tula, aux États-Unis, en même temps qu'elle acquiert la connaissance, elle acquiert la diplomatie, la réflexion, et elle acquiert la mesure de ce à quoi ne mènerait pas une révolte à Kosawa. Ces camarades de Kosawa, au contraire, eux, ce qu'ils mesurent, c'est qu'il n'y aura jamais de changement sur place s'ils ne décident pas de passer par la violence. Et donc, la révolution, disons, proposée par Fanon dans les années de la Terre, que lit Toula, ce sont ses camarades de Kosawa qui, peu à peu, vont la mettre en place et vont chercher à la réaliser. Ils vont faire des attentats. Ben oui, ils vont faire exploser un certain nombre de points stratégiques de l'exploitation de Paxton. Ils vont tirer sur des autocars qui transportent des travailleurs. Et ils vont, pendant 3 ans, mener des attaques tout à fait pointues contre la compagnie. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce n'est pas l'intellectuel qui va mener ses troupes, c'est les troupes qui vont devancer l'intellectuel. Et au fur et à mesure du livre, le détail des événements, c'est que, en fait, peu à peu, Toula est rattrapé par ses camarades et qu'elle ne peut pas reculer. Donc, elle va, dans une presque ultime lettre, se livrer à quelques réflexions. Donc, elle leur écrit « Réfléchissez. Paxton n'agit pas seul. Paxton n'a de pouvoir sur nous qu'en raison du pouvoir que notre gouvernement lui a accordé. Le gouvernement lui a donné nos terres. Le gouvernement a envoyé les soldats de nombreux après-midi dans notre village et dans les autres. Le gouvernement a pendu les hommes qui s'opposaient à lui. Si on réussissait maintenant à forcer Paxton à partir, le gouvernement ne reviendrait-il pas sous une autre forme pour continuer à nous opprimer? Notre véritable ennemi, finalement, ce n'est pas Paxton, c'est notre gouvernement. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne faille pas s'opposer à Paxton, mais surtout cela veut dire qu'il faut s'opposer à notre gouvernement. J'ai conscience de cela. Je voudrais que vous en preniez conscience aussi. Vous attaquez à Paxton, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour libérer notre village. Parce qu'il y a d'autres villages qui respirent un air empoisonné par Paxton. Il y a d'autres fleuves qui sont pollués par les pipelines de Paxton. Et ça, parce que son excellence a finalement donné le pays tout entier à Paxton ou à d'autres compagnies. Son excellence, des millions de gens souhaitent son départ. Alors, il faut saisir l'occasion. Il ne suffit pas de chercher à faire partir Paxton. Il faut mener un combat pour faire partir son excellence. Les gens doivent descendre dans la rue pour manifester et pour dire qu'ils veulent transformer leur pays. Voilà, c'est ça la solution. Alors, c'est la solution, en tout cas, que prône Toula. À la fin du livre, elle n'y est pas encore arrivée. La révolution n'est pas advenue. J'aurais tendance à dire que, malheureusement, Paul Biya est toujours au pouvoir au Cameroun. Ça fait quand même 40 ans que ça dure, 41, 42 ans maintenant. Donc, son excellence est toujours là. Son excellence est là aussi dans bien d'autres pays africains. Donc la révolution, on peut la prôner à Kosawa, au Cameroun et ailleurs. Mais on va se modérer aujourd'hui et dire à Marseille que bien sûr, une seule solution, la révolution. Mais c'est peut-être pas tout à fait pour aujourd'hui. À bientôt.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, ingekuwa wa Laïka.